Bonjour tout le monde ce matin. Vous allez bien? Passez un bon Noël, un bon réveillon, encore pas trop fatigué, j'espère. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous ce matin. Oui, Célia a dit oui. Attends le jour de l'an, Célia, ça n'a rien vu encore. Petite question pour vous ce matin. Est-ce que vous sentez au Québec là maintenant? Là? Oui, là c'est fini la Floride, là, hein? C'est fini la Floride. Et vraiment, là, ce matin, quand j'entendais ça, il y en a même qui ont joué au golf en Bermuda à Noël. Un 24 et un 25, quand j'entendais ça, je dis, ben voyons donc. Ça n'en revenait pas de la grâce que Dieu nous fait de retarder un petit peu l'hiver. Je suis sûr que vous vous ennuyez pas de ce genre de température-là, chacun d'entre vous. Vous êtes levé ce matin et dit, ah, enfin! Oui, enfin de la neige, mais elle est dans un état, disons, qui est un peu suspect parfois. Alors, je veux simplement vous souhaiter la bienvenue à ce dernier dimanche de l'année 2015. Est-ce qu'il s'est passé des choses en 2015 dans notre assemblée? Est-ce que Dieu est intervenu? Est-ce que Dieu a agi? C'est incroyable, hein? C'est incroyable de voir comment Dieu, dans nos vies, intervient de manière généreuse. Et 2015, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que dans notre assemblée, Dieu a vraiment agi et intervenu, que ce soit à travers les baptêmes qui ont eu lieu, qui vont encore avoir lieu en 2016, les nouvelles naissances également qu'on a vu arriver le jour de plein de petites frimousses. Il y en a d'autres qui vont arriver en 2016. Également, JBEC qui est venu cet été, l'impact qu'on a de plus en plus dans le quartier. On l'a vu la semaine passée, hein? On avait plus de 30 familles de visiteurs qui venaient du quartier ou des invités des gens de l'église. Et sincèrement, moi, Yannick, il me disait, puis d'autres gens à l'église, Miguel, on a rarement vu des visiteurs comme ça dans notre assemblée, puis en plus, c'est des visiteurs du quartier. Donc ça signifie que l'Évangile commence à grandir tranquillement dans notre quartier. On veut se réjouir de ça pour 2015. Vraiment, notre église a été le témoin vivant de la générosité de Dieu. Une des choses, par contre, qu'on s'aperçoit, c'est que quand Dieu intervient, quand Dieu agit, parfois, et je dirais même souvent, c'est de manière insoupçonnée. À des endroits où est-ce qu'on ne s'y attend pas. On s'attend que Dieu va faire des miracles, mais pas nécessairement à l'endroit où mon cœur ou ma vie en aurait besoin. Parce qu'il désire que je grandisse dans ma foi, et parfois dans ma foi, dans mon cœur, il y a des espaces secrets. Dieu intervient partout dans ma vie, sauf cet endroit-là, eh bien, on peut être sûr que c'est là qu'ils vont intervenir. Et on peut se demander souvent la question, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec des situations où tu interviens dans ma vie, dans des épisodes que je ne comprends pas, dans des épisodes qui, pour moi, me semblent juste me diminuer? Comment est-ce que tu veux vraiment me faire grandir? » Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est simplement, c'est pas une prédication, je dirais nécessairement un exposé très traditionnel. Ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous partager deux éléments. Deux éléments qui, au cours de, je dirais, des derniers mois, m'ont appris à voir Dieu d'une autre manière. À voir moi-même d'une autre manière et à voir l'Église et même la communauté de gens dont je fais partie, à les voir d'une autre façon, à les voir comme lui-même les voit. D'une certaine manière, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'est-ce que l'accident de vélo que j'ai eu il y a 3 mois m'a appris, pas nécessairement m'a appris, mais m'a permis d'expérimenter sur Dieu, sur moi-même et sur l'Église. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 3 mois, j'ai fait un accident de vélo qui, disons-le franchement, m'a un peu secoué. Ma femme vous dirait beaucoup. Moi, je vais dire m'a quand même secoué. J'ai fait une commotion cérébrale. J'ai été 2 semaines sur le lit. Après ça, plusieurs semaines à reprendre des énergies. Et pour ceux qui me connaissent, je suis pas habitué à ça. Moi, me tourner les pouces, là, c'est pas vraiment mon style. C'est pas vraiment quelque chose dans lequel j'aime m'épanouir. Et ça a été dur pour moi de rester assis et d'apprendre dans cet épisode-là ce que Dieu voulait me montrer. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement vous partager un peu ce que le Seigneur m'a montré sur lui, sur moi-même, puis sur l'Église en tant que telle, puis si on voudrait résumer la pensée de l'exposé ce matin, on pourrait simplement dire la phrase suivante. Juste pour résumer un peu la pensée, on pourrait dire « Dieu offre à tous les êtres humains un message de grâce. » Dieu offre à tous les êtres humains un message de grâce et c'est en apprenant à y croire et en en vivre qu'il est lui-même, qu'il est possible de le voir les choses comme lui-même les voit. Je relis simplement la phrase. Dieu offre à tous les êtres humains un message de grâce et c'est en apprenant à y croire et en vivre qu'il est possible de voir les choses comme lui-même les voit. Est-ce que vous diriez que vous êtes d'accord avec cette phrase-là ou ce défi-là, qu'un des défis dans notre vie en tant que croyant, c'est d'apprendre à voir les choses comme Dieu lui-même les voit? Dieu veut ça. Il veut qu'on aspire à la ressemblance de la personne de Jésus. Il veut qu'on apprenne à voir les choses, les autres, les éléments et même les épreuves, les circonstances de nos vies. Il désire que l'on apprenne à les voir comme lui-même les voit. Et ce que ce passage-là nous indique, c'est que lorsqu'une situation ne semble nous faire pour nous aucun sens, même lorsque pour nous c'est incompréhensible ce qui est en train d'arriver, Dieu n'en demeure pas moins un être actif. Dieu n'en demeure pas moins un être actif qui agit dans nos vies de manière insoupçonnée, à l'endroit exactement comme je disais tout à l'heure, où il veut lui-même intervenir, où est-ce qu'on a besoin qu'il intervienne. Un des versets qui m'est souvent revenu en tête, un des passages de la Bible qui m'est souvent revenu en tête au cours des dernières semaines, quand j'étais soit en convalescence, là je reviens d'un congé, mais du temps partiel d'à peu près un mois, je suis revenu à temps plein, les symptômes que je ressentais, le docteur m'a dit, mon médecin de famille, il dit, écoute Miguel, si tu veux revenir comme avant, tu n'as pas le choix, tu prends un mois à temps partiel, et là je reviens depuis deux semaines de ce temps partiel-là, ça fait toute la différence. Mais quand je vivais un peu cet amoindrissement physique-là, ce problème de mémoire-là que j'avais, que pour moi, la mémoire, c'est pas un problème généralement, puis là, j'en avais. Et là, je relisais constamment ce verset-là qui nous dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous dit ceci. Aucune tentation ou épreuve, dans le grec, là, les deux sont acceptables, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Supporter l'épreuve ou supporter la tentation. Ce qu'on voit ici dans ce passage-là, c'est que Dieu est constamment d'un support inconditionnel en toutes circonstances dans nos vies. Mais Dieu dit également un autre passage ici dans le verset qu'on vient de lire, c'est que dans tout ce qu'il nous est permis de vivre, Dieu a toujours un plan en tête. Dieu a toujours une stratégie. Pour lui, le hasard, ça n'existe pas. Il n'arrive rien pour rien. Dieu a un plan de match et son plan de match, c'est que je puisse supporter la tentation ou l'épreuve. Mais ce qui est implicite ici dans le verset, c'est que Dieu, s'il veut que je supporte cette situation-là qui pour moi peut m'affaiblir ou m'amoindrir, c'est qu'il veut m'amener à quelque part d'autre. Il fait pas juste me faire supporter cette situation-là par masochisme, juste pour me dire « Hey, c'est moi le boss. Hey, là, regarde là, petit cul, là. Moi, je cherche juste à te peser dessus là pour que tu sentes ton amoindrissement puis mieux dominer sur toi. » Dieu veut m'amener quelque part. Il veut m'élever. C'est pour cette raison-là qu'il permet que je puisse supporter une tentation, que je puisse supporter une épreuve. Il désire me prendre et m'élever pour que je devienne, grâce à lui, quelqu'un qui ne dépend pas de ses propres forces, mais quelqu'un qui est constamment tourné vers lui et qui permette que l'épreuve puisse, au lieu de m'amoindrir, m'élever. Je vais être bien honnête avec vous, pendant un certain temps, je ne comprenais pas le sens de ce verset-là. J'arrivais pas à comprendre où Dieu voulait en venir en permettant cet accident de vélo-là. Je vous remets dans la situation, là, on est au mois de septembre, juste avant la rentrée des explorateurs. Juste avant les fameuses conférences qu'on a eues il y a quelques semaines de cela de M. Paulison. Et il y a beaucoup de croissance qui se fait au cours des derniers mois dans l'Église. C'était pas le temps que Miguel y demeure inactif. Comprenez-vous? Il y avait de l'ouvrage. Il y avait un agenda rempli. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et Dieu permet une situation où est-ce qu'au lieu de travailler pour sa gloire, Ben Dieu, il allait le faire, mais premièrement avec moi, envers l'Église. Il me mettait dans une situation où est-ce que je pouvais en faire moins, alors que moi, dans ma tête, l'Église en avait besoin de plus de ma part, parce qu'il y avait de la situation de croissance. Et ça m'a profondément bouleversé de voir que Dieu permettait une situation comme ça, où l'Église avait besoin de tous ses ouvriers, de tout le conseil pastoral pour soutenir cette croissance-là, prendre soin des gens qui venaient. Et pourtant, Dieu dit, regarde, là, moi, j'ai d'autres plans. Apprends comme moi, je pense, et non pas comme toi, tu penses. À cause de ma fatigue constante, ma perte d'appétit, mon manque de concentration, ma perte d'entrain, j'avais même de la difficulté à me reconnaître. Je me reconnaissais littéralement plus. Ce qui me prenait parfois, je sais pas, deux heures et demie à faire, eh bien là, ça me prenait quatre fois plus de temps. Je me levais le matin, puis pour moi, c'était un fardeau. Ça n'a jamais été ça durant toute ma vie. Ça n'a jamais été un problème pour moi de me lever le matin. Là, je n'étais plus capable de me lever. Mon humeur même était comme un yo-yo. Des journées, ça allait très bien. Le lendemain, je voulais pratiquement mourir. Dans le sens que c'était très up and down, mon affaire, physiquement. Et j'avais beaucoup de difficultés à me reconnaître là-dedans. Parce que je n'étais pas capable de faire ce que je faisais auparavant, avant l'accident. Moi, je pensais qu'en ayant l'accident, en deux semaines, tout s'est réglé. Parfait, Miguel, tu reviens au poste, puis on recommence à zéro, comme au début. Il dit non, non, mon corps, il disait une autre affaire, lui. Et une des choses très importantes qui m'a été permis d'apprendre à propos de moi-même et à propos de Dieu dans cette histoire-là, c'est un des points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous ce matin, c'est que Dieu est un être gracieux. Et sa grâce a le pouvoir de définir totalement qui je suis. La grâce de Dieu a le pouvoir de définir totalement qui je suis. Et le terme, ce que j'aimerais revenir avec vous ce matin, c'est le terme « totalement ». Ce que ça veut dire d'une certaine manière, c'est que la faveur que j'ai de vivre près de Dieu en la personne de Jésus-Christ me donne une valeur et une identité qui n'a pas besoin d'être complétée par d'autres choses. Ce que Dieu m'offre comme geste, comme relation gratuite avec lui à travers la personne de Jésus, c'est suffisant pour dire qui je suis et je n'ai pas besoin d'agir ou de faire des choses pour compléter cette identité-là. Dieu a fait de moi, à travers la personne de Jésus, un être pardonné, un être gracié, et ça fait de moi un homme, un être humain, avec une identité qui est complète. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin, d'une certaine façon, je n'ai pas besoin de faire exactement ce que je faisais auparavant pour être le même homme, le même être humain qu'après l'accident. Mais dans ma tête, ça ne roulait pas toujours comme ça. C'est un peu le genre de déduction théologique que fait Paul. Vous vous souvenez dans la lettre aux deux Corinthiens. Dans la lettre aux deux Corinthiens, Paul dit à un moment donné à l'Église, il parle d'un malaise, d'une situation physique qu'il est en train de vivre et qui semble l'handicaper, qui semble l'amoindrir dans son utilité pour Dieu. Et ce que Paul dit, c'est que j'ai prié trois fois le Seigneur qu'il éloigne cette épreuve physique-là de moi. Paul parle d'une écharpe dans la chair. On ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. Il y a plusieurs interprétations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé une épreuve où est-ce qu'il s'est senti amoindri dans ses capacités physiques et qu'il a prié le Seigneur d'éloigner cette épreuve-là de lui afin qu'il soit plus efficace pour lui. Et vous vous souvenez de ce que Dieu lui répond? Vous vous souvenez de ce que Dieu lui répond dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais prendre le temps d'y tourner, juste pour vous le lire. Alors voici ce que Dieu dit en réponse à la prière de Paul quand il lui demande « Éloigne cette épreuve de moi ». Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, Paul, il en vient à une déduction à propos de la réponse de Dieu. Paul, il en vient au constat suivant. Il se dit à lui-même, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul ici prend conscience que sans l'épreuve qu'il est en train de subir, l'épreuve physique, sans se sentir faible, eh bien, Dieu n'arrivera pas à agir puissamment dans lui. Et il termine au verset 10 en disant, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc, il ressent une faiblesse, mais cette faiblesse-là, au loin de l'amoindrir dans son identité, il se sent plus robuste qu'avant, il se sent plus vigoureux. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu vient sur lui. Je vous le dis sincèrement, quand je vivais cette situation-là, je me sentais exactement dans cette situation-là. Je me sentais comme inutile pour Dieu, je me sentais inefficace, improductif, parce que ça me prenait plus de temps à faire les mêmes choses, j'avais des problèmes de mémoire, de concentration. Je suis convaincu qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé ce genre de situation-là. Vous vous sentez amoindri physiquement, et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bon, on peut en faire moins pour Dieu. Puis ce qui arrivait, c'est que je me sentais inutile. Inutile pour Dieu. Mais d'une certaine manière, ça roulait dans ma tête. Puis ce que Dieu me disait, c'est que regarde, Miguel, il dit, ma grâce ne te suffit pas pour dire qui que t'es. T'as pas besoin de faire des choses pour être utile à mon royaume. Contente-toi de qui tu es. J'ai permis cet accident-là pour que tu expérimentes c'est quoi être vulnérable. C'est quoi être amoindri physiquement? Parce que tu as besoin de ça dans ta vie. Tu as besoin que je te dise puis que tu expérimentes que ma grâce te suffit pour dire qui tu es. Et c'est exactement ce que Paul ici nous révèle dans ce verset-ci. C'est qu'avant de se sentir utile pour Dieu, avant d'accomplir des choses pour Dieu, Paul et d'une certaine manière également chacun de nous, on a besoin tout d'abord de dépendre complètement de la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement immense, grand dans sa générosité, que parfois il a besoin de faire le vide autour ou en nous pour mieux remplir l'espace. Il a besoin de nous faire sentir notre vulnérabilité pour entrer et s'enraciner plus profondément en nous, dans la manière dont on pense, dans la manière dont on agit, que ce soit avec nos voisins, nos employeurs, nos enfants. Il a besoin de se faire de l'espace. Cela, je l'ai cru, je le savais, je l'ai même souvent enseigné que la grâce de Dieu me suffit. Mais il y avait un endroit dans mon cœur qui me disait, Miguel, ce que tu fais, t'es utile pour Dieu, puis ce que tu fais d'une certaine manière, ça a une certaine influence sur qui tu es. Tu es efficace quand tu fais ceci pour Dieu. Tu es productif pour Dieu quand tu fais des choses pour lui. Tu es un enfant de Dieu parce que ton agenda est bien rempli, parce que tu as des rencontres, parce que t'es tout le temps en action pour le royaume. Mais là, je me retrouvais dans une situation où je n'étais plus capable de faire ça autant que j'aurais voulu. Et ça l'influençait ma perception de qui j'étais. Je me sentais inutile parce que souvent, je ne pouvais pas faire les choses que je voulais faire pour Dieu. Et Dieu, ce qu'il était en train de m'apprendre, c'est « Regarde, Miguel, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que j'ai fait de toi moi-même. » Je le savais tout ça. Je savais ça. J'ai fait toutes mes études à Sambec. J'ai longtemps enseigné. J'ai pris du temps souvent même pour approfondir tout ça. C'est quelque chose dans lequel même je croyais profondément. Là, j'étais en train vraiment de l'expérimenter comme jamais je l'avais expérimenté. Dieu me fait voir ma vulnérabilité pour me dire, regarde, Miguel, tu n'es pas aussi indispensable que tu le crois. Puis ce que tu fais pour moi, tu dois apprendre que premièrement, c'est pas toi qui le fais. C'est moi qui le fais dans toi. Je me suis rendu compte que bien souvent dans ma vie, je me laisse influencer dans qui je suis parce que je fais pour Dieu. Alors que Dieu a tellement mieux à m'offrir qu'une vie de performance. Qu'une vie où est-ce que, parfois, oui, ça peut être tu veux peut-être faire des choses, tu as plein de projets dans ta tête, il te manque de 24 heures dans une journée pour tout faire ce que tu voudrais. OK, voici, là, je vais envoyer une situation où tu vas avoir l'impression que tu n'auras même pas assez besoin d'une semaine pour vouloir faire tout ce que tu fais. 24 heures, c'est pas suffisant. Regarde, je vais te mettre dans une situation où tu vas encore plus te sentir vulnérable puis coincé dans la situation. Dieu m'a mis au pied du mur physiquement afin que j'apprenne que si je peux être utile pour lui, cela passe premièrement par la manière dont il me voit. Comment Dieu me voit? Est-ce qu'il me voit seulement comme quelqu'un qui peut être utile pour son royaume? Je suis déjà dans le royaume. Avant d'être utile pour le royaume, il faut que je me définisse comme quelqu'un qui appartient au royaume. Quelqu'un que Jésus-Christ a pris le péché, le poids qui pesait sur moi, ma culpabilité. Et voici Dieu, à travers le sacrifice et la résurrection de Jésus, fait de moi un être qui est pardonné, un être qui est gracié, un être qui vit sous sa faveur. C'est ça que je suis. Un enfant de Dieu. Et ce que je fais pour Dieu n'a pas d'impact sur ce que je suis vraiment. Ça a un impact sur mon rôle. Mais mon rôle ne définit pas mon identité. Mon identité, c'est Dieu qui me la donne. Et ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus-Christ a dit à la croix. Tout est accompli. Tu n'as pas besoin de rajouter rien pour être plus quelqu'un. Tout est accompli. Tu es vraiment quelqu'un parce que moi, j'ai fait quelqu'un de toi à la croix. J'ai pris ton péché et je l'ai complètement cloué à la croix, le tien, à travers la personne de Jésus. Et je l'ai même ressuscité, ce Jésus-là, pour que tu puisses avoir, être libéré du piège de la performance et que tu te laisses simplement être un être de grâce. Dieu avait besoin de me faire voir ma vulnérabilité afin que je puisse expérimenter cela de manière plus vivante, plus profonde. Je devais comprendre que, fondamentalement, je ne suis pas un être qui peut performer pour Dieu. Fondamentalement, je suis un être qui a désespérément besoin de Dieu. Quand je me lève le matin, j'ai besoin de ce temps-là. Avant même de regarder mon agenda, avant même de courir après des rendez-vous, avant même de prier Dieu pour qu'il mette telle situation devant moi pour que je puisse être encore plus utile et plus efficace pour lui, j'ai besoin, avant d'être un berger pour des gens, j'ai besoin de me sentir comme une brebis pour le grand berger céleste. C'est ce qui va me permettre d'être un berger, qui va vivre vraiment de la grâce de Dieu. J'avais besoin de me voir comme ça. Je me voyais dans ma tête, c'était clair, mais quand, en le vivant, j'ai appris à l'expérimenter vraiment. Vraiment. Ça m'a permis de me voir pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Simplement, pour vous laisser sur ce point-là, sur une petite phrase que j'ai entendue hier. Hier, j'étais au cinéma avec mon garçon Louis Jacob. Et puis, vous savez ce que j'étais voir? J'ai été voir le nouveau Star Wars. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous évite le film, mais il y a une phrase qui est dite dans le film où est-ce qu'on nous dit ceci. Donnez-moi un petit instant, je ne veux juste pas me tromper dans la manière dont c'est dit. Je vais juste retourner sur sur la note que j'ai prise à ce sujet-là. On nous dit dans le film, l'identité que tu recherches n'est pas derrière toi. L'identité que tu recherches n'est pas dans ce que tu as déjà fait, n'est pas dans ce que tu as accompli pour Dieu. Elle ne dépend pas de ton passé, ton identité. L'identité que tu recherches n'est pas derrière toi, elle est à venir. Et là, je pensais à ce moment où Jésus-Christ va revenir, faire de moi son enfant. Peu importe ce que j'ai fait avant, peu importe le travail que j'ai accompli, peu importe ce que j'aurais pu faire comme royaume pour sa gloire à lui, mon identité, elle est à venir dans le sens qu'elle ne dépend pas de ce que j'ai accompli, mais de ce que Christ lui-même a accompli pour moi. Elle est à venir, cette identité-là, dans le sens que Christ, à la croix, m'a donné une identité nouvelle. Il a fait de moi un être pardonné par sa grâce, mais elle ne va s'accomplir parfaitement que dans les temps qui vont venir. Je l'ai aujourd'hui, cette identité-là. mais elle va s'accomplir dans des moments à venir et non pas dans ce que je fais moi-même. Et ça m'a tellement, je me suis senti délivré. Délivré de ce que je faisais pour Dieu, pour simplement être quelqu'un pour Dieu. Je ne peux pas vous compter le nombre de larmes que j'ai versées sur ma Bible. En lisant ce verset-là. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Laissez simplement Christ dominer sur ce que je peux faire pour lui. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que, premièrement, oui, la grâce a le pouvoir, la grâce de Dieu a le pouvoir de définir totalement qui je suis. Je n'ai pas besoin de performer pour ça. Mais que la grâce de Dieu a également la capacité de m'amener là où mes aptitudes n'ont pas la force de le faire. La grâce de Dieu a la capacité de m'amener là où mes aptitudes n'ont pas la force de le faire. C'est exactement ce que dit le passage au verset 10 qu'a contenu tout à l'heure. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si je veux parvenir à la force, je dois premièrement expérimenter ma vulnérabilité. Je dois expérimenter cette espèce d'amoindrissement ou d'incapacité-là si je veux laisser la grâce de Dieu remplir l'espace de ma vie et m'amener là à un endroit où est-ce que mes habiletés, ma compétence, on n'aurait jamais eu le pouvoir de le faire. Comment est-ce que Dieu m'a appris cette vérité-là? Comment est-ce qu'il me l'apprend encore? Comment est-ce qu'il peut utiliser sa grâce, son travail pour m'amener là où j'en ai vraiment besoin dans ma vie? Bien, je vais vous expliquer un peu ou vous partager ce qui m'a été permis d'expérimenter à ce sujet-là. Tout le monde sait que le travail d'équipe, ça permet d'accomplir beaucoup plus de choses que le travail en solo. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Quand on travaille ensemble, ça va beaucoup plus vite et mieux que quand on est tout seul. Il y a un proverbe qui dit « deux têtes valent mieux qu'une ». Bien, d'une certaine manière, c'est vrai. Dieu permet que, à travers l'Église que nous sommes, nous pouvons accomplir beaucoup mieux et accueillir beaucoup mieux et faire du bien autour de nous d'une manière beaucoup plus généreuse et beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que si nous sommes seuls dans notre coin, encadrés entre quatre murs. Ce que j'ai découvert à travers ça, c'est l'absolue nécessité de l'autre. Non seulement l'absolue nécessité de l'autre pour travailler de manière plus efficace, plus productive, puis faire en accomplir plus, mais l'absolue nécessité de l'autre afin de donner un sens véritable à ma vie. L'autre, d'une certaine manière, ce que je comprenais dans ce que Dieu m'amenait à penser, c'est que l'autre n'existe pas juste pour que je sois plus efficace dans mon travail pour Dieu. Parce que c'est possible de travailler de manière collective et de travailler de manière communautaire, de déléguer des tâches, d'être capable de bien travailler en équipe et communautairement de faire les tâches ensemble. C'est possible de faire ça, mais de tout le temps viser l'objectif de l'efficacité. C'est ce que le monde nous offre. Dans vos emplois, dans votre carrière, on privilégie toujours le travail d'équipe. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'être plus efficace et de produire plus pour l'entreprise. Et c'est également possible de voir le travail en église de cette manière-là. On travaille ensemble parce qu'on en accomplit plus. Et ce que Dieu me voyait, c'est que j'ai non seulement besoin d'être uni à chacun d'entre vous, que j'ai besoin d'être uni à l'église locale, non pas seulement pour être plus efficace dans le travail que j'offre ou que nous offrons pour Dieu, mais j'ai besoin d'être uni à son église pour y trouver une identité. Et que chacun d'entre nous, d'une certaine manière, on a à dépendre non seulement de Dieu, mais également à dépendre, et là, il faut que je prenne le temps de faire quelques explications, mais à dépendre d'une certaine façon de chacun d'entre nous. Souvent, dépendance dans l'Église, ça peut être souvent comme mal vu dans le sens qu'on ne parle pas ici d'une dépendance oisive, où est-ce qu'on privilégie la paresse, où est-ce qu'il y en a une gang qui travaille, puis l'autre qui ne travaille pas, puis on doit dépendre des autres, et juste ceux qui travaillent doivent combler ceux qui ne travaillent pas. Le but ici de la dépendance, c'est de trouver notre identité dans le fait que nous sommes un corps. Nous sommes une communauté que Dieu a créée et qu'il a créée pour que nous soyons unis les uns aux autres dans ce que nous sommes. C'est un peu ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. Voici ce que Paul nous dit au verset 12. Un petit instant, je vais juste trouver le passage comme il faut. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 nous dit, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, » ici Paul parle de l'Église, « et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, ce que Paul fait ici, c'est qu'il crée une interdépendance personnelle avec les membres de son Église, envers les croyants. Non seulement on travaille ensemble et on est appelé à être un corps pour travailler efficacement pour Dieu, mais on est surtout appelé à le faire parce que Dieu nous a créés dans notre identité comme un corps et non pas seulement comme un individu. Il nous a appelés ici, d'une certaine manière, à être quelqu'un collectivement. Et il poursuit au verset 27 en disant, « Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes, pas les, vous êtes le corps de Christ. » Ce que je comprenais de ce verset-là, ce que ça m'a montré, c'est que j'ai besoin de voir mon identité personnelle, non pas dans ce que je fais ou je suis capable de faire, puis que là, mon handicap physique ne me permettait plus, mais j'ai besoin de voir mon identité de manière plus collective. Les autres doivent participer, Miguel, au fait que tu es un enfant de Dieu et que si tu es amoindri dans tes faiblesses, bien, il y a des frères et des sœurs autour de toi pour te supporter, pour prier pour toi et permettre que ce que tu faisais, bien, qu'il y en a d'autres qui prennent la relève et ça va cultiver votre complémentarité, votre solidarité. Dieu ne m'a pas uni essentiellement à son Église afin que mon travail pour lui soit plus efficace. Il m'a uni à son Église afin que je puisse expérimenter l'identité collective qui nous unit à la personne de Jésus-Christ. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Ma femme vous dirait très indépendant. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses par lui-même. Et je suis un gars de service également. Donc moi, quand il y a un besoin qui se fait connaître dans l'Église, qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est comme ça fait? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis le premier à lever la main quand il y a quelque chose à faire. Il y a des toilettes à déboucher, je vais y aller. Il y a le vestiaire à ranger, je vais y aller. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prêche, je vais y aller. Comprenez-vous? Surtout qu'il y a un besoin, c'est comme quelque chose en moi d'inné, quelque chose que Dieu avec lequel m'a créé, que je suis disponible, je veux faire les choses. Ce que Dieu est en train de m'apprendre, c'est que Miguel, c'est bien que tu te rendes disponible. Mais tu dois également te poser la question, est-ce que quelqu'un autour de toi qui peut mieux faire la tâche que toi? Parce que peut-être que tu es disponible, mais tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour faire ce dans le quoi le besoin il est là, là. Donc, ce que le Seigneur m'a promis d'une certaine manière, c'est arrête de faire les choses par toi-même. Et élargis ton équipe autour de toi. Tu as besoin de dépendre des autres pour le travail que tu es en train de faire. Arrête de penser que tu y a juste toi qui peux bien faire les choses. C'est un mensonge. Les autres peuvent non seulement aussi bien le faire que toi, mais ils peuvent souvent le faire beaucoup mieux que toi. Et Dieu m'apprenait à ce moment-là, Miguel, tu ne dépends pas assez des gens dans l'Église. Tu ne te mets pas assez à nu avec eux. Tu ne cherches pas assez à... Je suis un gars d'équipe, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça travailler en équipe, mais pour moi, c'était souvent compliqué. Il me semble que ça va être bien plus facile puis bien plus court. Ça va être bien plus efficace si moi je le fais au lieu de chercher quelqu'un d'autre. Ouais, mais là, tu prives quelqu'un d'une bénédiction immense. Tu prives de sa contribution au corps qui est l'Église. Et tu dois aller le chercher. Tu dois non seulement travailler en équipe parce que à ce moment-là, tu arrêtes de sous-utiliser ce que Dieu a mis dans son Église, mais en plus, tu permets aux gens autour de toi de travailler pour la grâce qui vous unit les uns les autres. Quand j'étais sur mon divan, à la maison, dans les journées de congé, le Seigneur me repassait ça complètement dans la tête. « Miguel, il faut que tu apprennes à travailler d'une autre manière. » C'est ça que je veux te montrer. Oui, tu travailles en équipe. Oui, tu progresses. Je sais que tu as le désir, mais tu n'es pas assez audacieux dans le travail d'équipe que tu fais. Tu dois t'entourer beaucoup plus. Tu dois demander beaucoup plus de compte-rendu à ta femme lorsque tu fais des choses avec les enfants. Arrête de penser que tu sais tout. Parce que souvent, je vais vous le confesser bien sincèrement, j'ai souvent pensé que je savais tout. Et ma femme était là pour me dire le contraire. D'une certaine manière, Dieu utilise nos limites personnelles. Dieu utilise nos limites personnelles, non pas pour nous arrêter, mais il utilise nos limites personnelles comme un tremplin pour nous propulser ailleurs. Et c'est ce que l'accident de vélo m'a permis d'expérimenter. J'expérimente encore cela. J'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire de cette situation-là où je me suis senti amoindri et utiliser la puissance de Dieu, pas pour éviter l'amoindrissement, mais que sa puissance s'exerce en moi. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix, ce qui est arrivé, c'est que la gloire de Dieu a brillé d'une manière magnifique. Il est arrivé quelque chose d'extrêmement prodigieux à la croix. Dieu a supporté une épreuve abominable afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu va utiliser le moindre amoindrissement dans ma vie pour me lancer et faire éclater sa gloire. Jésus-Christ ne s'est pas vu comme quelqu'un d'inutile à la croix. Même si physiquement il était cloué, il pouvait produire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, supporter le poids de l'humanité. Et ce que Dieu me montrait, c'est que même si t'es amoindri physiquement, maintenant je ne le suis plus, en tout cas beaucoup moins qu'avant, mais même si t'es amoindri physiquement, ma gloire continue de resplendir dans toi et autour de toi. Tu ressembles à Jésus dans ce que tu es amoindri. Et ça m'a tellement encouragé. Dernière chose que j'aimerais vous partager à ce sujet-là. Vous vous souvenez dans la Genèse, comment Dieu a créé le monde? À partir de quoi? Il a créé le monde dans la Genèse à partir d'une masse qui est informe et qui est vide. Et je vous le dis sincèrement, dans les 3 mois, il y a eu des épisodes où je me suis senti vide. Ce que Dieu me montrait, c'est que, regarde, c'est tout à fait normal que tu te sentes comme ça. Parce que c'est comme ça que j'ai créé le monde. C'est comme ça que j'ai créé le message de l'Évangile à travers la personne de Jésus. Et ce que tu as besoin dans ta vie, c'est parfois de te sentir vide et diminué afin que je puisse remplir complètement l'espace. Et s'il en reste de toi, bien, je ne pourrais pas être totalement révélé parce qu'il va tout le temps rester une petite partie de toi. Apprends à te sentir amoindri. Apprends à te sentir vulnérable. C'est de cette manière-là que je vais pouvoir faire exploser ma gloire dans ta vie et dans le monde autour de toi. C'est comme ça que tu vas apprendre à dépendre totalement de moi. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière pour terminer. J'aimerais simplement qu'on puisse remercier Dieu pour cet acte extraordinaire de la croix qu'il a accompli. Ce haut fait d'armes où est-ce que Jésus-Christ a décidé que dans ma vie, même si je me sens amoindri, même si je me sens faible, même si je me sens incapable, Dieu désire me faire grandir et m'enraciner dans sa puissance, dans la force qu'il est capable de mettre dans mon cœur, malgré toutes les impressions de faiblesse que je peux avoir. Dieu est à l'œuvre dans chaque circonstance de nos vies et il veut nous amener plus loin, souvent dans des endroits où est-ce qu'on peut se sentir diminué. Gloire à lui. Gloire à lui simplement pour ce haut fait d'armes qu'il nous a exposé à la croix. On va se courber quelques instants. Seigneur éternel, on est devant toi comme des êtres humains qui ont tellement besoin de ta grâce, qui ont tellement besoin de ta faveur. Et le message que tu nous offres, c'est que non seulement tu veux nous aimer pour ce que nous sommes, mais nous dire même que notre identité, Seigneur, tu leur donnes un sens complet et nouveau lorsqu'on expérimente ta grâce. Et c'est une chose de vivre ta grâce, Seigneur, c'est une chose d'y croire, mais nous voulons complètement apprendre à dépendre de cette grâce-là. Ne pas dépendre de ce que je fais pour toi, de mon utilité, Seigneur, que ce soit dans ma famille, dans mon travail, autour de moi, comme un disciple de Jésus. Mais Seigneur, ma prière, c'est d'apprendre que tu utilises ce qui me diminue pour faire grandir, Seigneur, qui tu es. Et que le monde autour de nous voit que dans nos diminutions, dans notre amoindrissement, Seigneur, nous sommes élevés par toi. Nous ne sommes pas diminués parce que nous faisons pour toi, mais c'est toi, Seigneur, qui nous élève. C'est toi qui donnes un sens à chaque brindille de notre faiblesse. Merci, Seigneur, de cet acte de grâce que tu as fait, de mourir à la croix, pour faire de nous des créatures pardonnées. Apprends-nous à dépendre, Seigneur, de cette identité complète que nous avons, qu'un jour tu vas manifester de manière complète lorsque tu vas revenir. Merci pour cette grâce qui nous suffit. Merci pour cette grâce qui nous donne une identité totale et complète. Seigneur, que ton nom soit élevé, qu'il soit béni, et qu'il puisse s'enraciner dans nos vies comme toi seul es capable de le faire. Amen.